Tout d'abord, merci d'être là. Merci à Wendy de m'avoir invité et de m'avoir laissé, comme elle l'a dit, la partie où on va parler plus de travaux de recherche, en particulier de beaucoup de travaux que nous avons faits ensemble, pour introduire des concepts d'interaction sur une approche qu'on appelle l'approche générative et qui nous a permis de créer des interfaces qui nous semblent plus adaptées, plus efficaces pour nos capacités humaines et qui exploitent mieux les capacités de l'ordinateur. Comme l'a dit Wendy, le phénomène de l'interaction est un phénomène complexe, mais les interfaces qu'on utilise aujourd'hui ont en fait été conçues essentiellement dans la perspective d'un utilisateur qui utilise un ordinateur pour faire une tâche à la fois, avec l'exemple du star. Mais aujourd'hui, on est submergé d'applications parce que l'ordinateur sert à faire beaucoup de choses diverses. On est submergé d'appareils, on jongle entre nos smartphones, nos tablettes, etc. Et puis, on est dans un monde où on est connecté de plus en plus aux autres à travers l'ordinateur. Et donc, tous ces changements d'échelle, finalement, n'ont pas vraiment été pris en compte par l'évolution des interfaces, puisque les interfaces actuelles restent des interfaces graphiques qui ont été conçues dans les années 80. Voilà à nouveau l'image du Xerox Star. Et 40 ans plus tard, en fait, ça n'a pas changé. Si, il y a un peu de couleur. Mais les principes de base restent les mêmes. Et donc, les changements qu'il y a eu, c'est qu'on est passé, ou on a ajouté aux interfaces classiques, clavier-souris, écran, des interfaces tactiles. Mais ces interfaces tactiles sont finalement assez pauvres. Nos appareils, smartphones et tablettes, servent surtout à consommer des contenus ou à communiquer les uns avec les autres. Mais vous n'allez pas rédiger votre thèse sur votre smartphone. Les interfaces vocales sont apparues aussi avec les appareils comme Alexa, Siri, etc. Mais même s'il y a des progrès constants, l'interaction vocale, elle ne va pas servir à tout faire. Vous n'allez pas parler à votre distributeur de billets à haute voix dans la rue, par exemple, ce ne sera pas très sûr, ou faire votre prochaine déclaration d'impôt par un service vocal, ce n'est pas forcément le plus efficace. L'interaction en réalité virtuelle est en train d'émerger parce que les prix des équipements ont beaucoup baissé, mais ça reste aussi des applications assez spécifiques. Et puis demain, on aura des interfaces en réalité augmentée, en interfaces tangibles. Wendy en parlera dans une future leçon. On parle beaucoup d'interfaces cerveau-ordinateur, mais qui restent encore très limitées en termes de capacité d'analyse de l'activité du cerveau. Ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de ces nouvelles technologies, on a parlé du vocal pendant longtemps, on parle de la réalité virtuelle beaucoup, c'est toujours présenté comme la nouvelle technologie qui va remplacer tout ce qui a été fait avant. Et en fait, quel style va gagner? Je pense qu'aucun style va gagner, parce qu'aucun n'est le meilleur style pour toutes les situations. Il y a des situations où on veut du vocal parce qu'on a les mains occupées et qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a des situations où on veut du virtuel parce qu'on est dans un environnement complexe, on a besoin d'être dans un monde 3D. Et puis il y a des situations où un clavier et une souris resteront les plus efficaces pour certaines tâches. Donc la vraie question, vraiment, c'est plutôt comment va-t-on faire coexister ces styles d'interaction, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Et surtout, comment ils vont pouvoir s'enrichir mutuellement. Plus largement, la question, c'est comment créer des styles d'interaction qui exploitent mieux nos capacités humaines, dont on a vu qu'elles sont fantastiques par certains aspects, limitées par d'autres, et comment ces capacités humaines vont être mises au service, finalement, de l'exploitation des capacités de la machine. Alors, ce que je constate, c'est que, en fait, l'évolution des technologies interactives ne va pas vraiment dans le sens de cette fusion des modalités, de cette complémentarité des styles, de cette interopérabilité que l'on souhaite pour avoir des systèmes plus flexibles, pour avoir des systèmes que les utilisateurs peuvent s'approprier. Si je vais prendre trois exemples, je pense que vous avez tous une adresse mail. Il ne vous viendrait pas à l'idée que pour pouvoir envoyer un message à quelqu'un dont l'adresse mail se termine par gmail.com, vous deviez vous-même avoir une adresse, c'est monsieur.gmail.com. Et que si vous êtes chez Outlook, vous ne puissiez envoyer des messages que à des correspondants qui ont un compte chez Outlook. De même, vous pouvez choisir votre application pour naviguer dans les messages. Ça peut être Outlook, justement, qui est aussi une application en plus d'un service. Ça peut être l'application mail d'Apple, ça peut être Thunderbird, etc. Donc, on a le choix. Je choisis mon fournisseur de service mail, je choisis mon application. Mais avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, pour prendre un autre moyen de communication, Facebook, Instagram, Twitter, etc., vous ne pouvez, pour communiquer avec quelqu'un sur Facebook, il faut être sur Facebook. C'est d'ailleurs marrant, on dit qu'il faut être sur Facebook. Tu es sur Facebook ? Non, moi je ne suis pas sur Facebook, et donc je me prive de toutes ces capacités. Et ensuite, non seulement je dois être enregistré auprès du même service, mais je dois utiliser l'application que M. Facebook a conçue pour moi, et je n'ai pas vraiment le choix d'en utiliser une autre. Twitter, à un moment donné, avait ce qu'on appelle une API, une interface de programmation, qui permettait et qui avait permis de créer d'autres clients Twitter. Et puis un beau jour, ils ont fermé l'accès, et maintenant, il n'y a que Twitter qui peut faire des clients Twitter. Autre exemple, il y a longtemps que j'ai commencé l'informatique, on manipulait surtout des fichiers texte, mais on pouvait choisir son éditeur. Moi, j'étais Emacs, mes voisins étaient plutôt VI. Aujourd'hui, on a d'autres éditeurs comme Sublime. S'il y a des programmeurs dans la salle, ça leur dit peut-être quelque chose. Et puis, un beau jour, sont arrivés des traitements de texte avec des formats propriétaires. Alors, il y en avait un certain nombre à l'époque. Il y avait WordPerfect, il y avait Word, etc. Bon, c'est Word qui a gagné. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de Word. Format propriétaire, je dis bien propriétaire parce que la spécification fait plusieurs milliers de pages. Et si vous avez essayé d'ouvrir des documents Word dans d'autres applications comme LibreOffice, ça marche des fois. Mais à tout moment, Word pourrait décider de changer la spécification et de reprendre le contrôle. Et puis à cela s'ajoute le cloud, où aujourd'hui, nos fichiers ne sont même plus chez nous, ils ne sont même plus sur mon ordinateur, ils sont quelque part. Et là aussi, il faut que je décide, est-ce que je vais être chez M. Dropbox, chez M. Google, chez M. Nextcloud, etc. Et donc, je perds le contrôle des applications que j'utilise, des formats des fichiers et même de mes fichiers. Troisième exemple, toujours dans le bon vieux temps des interfaces conversationnelles, des langages de commande sous Unix, le fait d'avoir un langage de commande, certes difficile à apprendre et pas toujours commode, avait quand même une puissance d'expression importante. Et tous les utilisateurs d'Unix se forgeaient leur propre environnement, leurs propres commandes, leurs propres scripts, on se les échangeait aussi, et ça permettait de configurer son environnement à sa manière. Aujourd'hui, on est dans des applications qui nous sont fournies et sur lesquelles on a peu de contrôle. Si je veux faire des tableurs et que j'utilise Excel, c'est Excel, j'ai pas moyen. Enfin, j'ai des moyens de personnalisation, mais qui sont extrêmement limités. Et donc, cette approche actuelle, c'est ce qu'on appelle des jardins privés, des walled gardens en anglais, c'est-à-dire que tant qu'on reste à l'intérieur de, on appelle ça l'écosystème, les vendeurs d'applications aiment bien ce terme, ça fait joli, quoi, ça fait écologique, tant qu'on est dans le jardin, tout va bien. Tant que je suis dans le jardin Microsoft, ça va bien. Tant que je suis dans le jardin Adobe, ça va bien. Mais quand je veux passer de l'un à l'autre, les choses se compliquent. Et en plus, aujourd'hui, non seulement ces applications sont des environnements fermés, un peu isolés les uns des autres, mais en plus, nos données ne nous appartiennent plus, elles sont stockées dans des silos d'informations auxquels j'ai l'accès que le fournisseur veut bien me donner et sur lequel j'ai à nouveau peu de contrôle. Donc, on a une sorte d'incohérence entre le fait que l'ordinateur sert à de plus en plus de choses et en même temps, on nous donne de moins en moins de contrôle sur la façon de l'utiliser. Manque de flexibilité pour les utilisateurs. Je prends une application telle qu'elle est ou pas, et puis j'ai pas d'intermédiaire, j'ai souvent pas d'alternative. Perte de contrôle pour façonner l'environnement à ma guise. Et donc, peut-on imaginer un monde meilleur ? Alors, un monde numérique meilleur, ce serait déjà un premier pas. Alors, un monde meilleur, ça veut dire quoi ? Ça peut vouloir dire différentes choses de différentes personnes. Pour certains, un monde meilleur, c'est un monde où la machine va tout faire à ma place. C'est le monde où l'IA va prendre le contrôle. C'est peut-être la vision qu'anticipe Kurzweil. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse en tout cas dans nos travaux de recherche, c'est un monde meilleur au sens où on va donner du contrôle aux utilisateurs pour qu'ils puissent mieux exploiter les capacités de l'ordinateur en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs propres capacités. Et si on compare ce qui se passe dans un environnement physique et un environnement numérique, les différences sont frappantes. Ici, on a un architecte qui a constitué son espace de travail, donc il a choisi ses outils. Bon, il y a aussi une tasse à café qui traîne, il y a des documents. Donc on voit que c'est son espace de travail. Et un autre architecte aurait une autre configuration. Mais pendant que j'étais en train d'éditer ce transparent, mon écran il ressemblait à ça. Et en fait, n'importe qui d'autre qui aurait fait la même chose aurait eu un écran qui ressemblait à la même chose parce que c'est l'application. Bon, là, c'est Keynote. Et j'ai pas. Les transparents sont à gauche. Je ne peux pas les mettre à droite ou les mettre ailleurs. Tout est prévu d'une manière qui est complètement figée. A contrario, le monde physique est en fait beaucoup plus flexible que le monde numérique. Wendy aime bien dire software is not soft. Qui ne se traduit pas aussi élégamment en français. Le software n'est pas flexible, mais voilà. Software is not soft. Le monde physique est flexible, et je vais vous expliquer pourquoi. Si je vous montre ces images, vous reconnaissez immédiatement un crayon, vous reconnaissez immédiatement une tasse. Mais en fait, dans une situation particulière, que vous avez certainement déjà vécue, ce crayon va instantanément devenir une règle, parce que vous n'avez pas de règle sous la main, vous avez besoin de tracer un trait droit, et ce crayon, il est rectiligne, il est suffisamment rigide, suffisamment long, et il va vous servir de règle. Il y a un coup de vent dans votre bureau, vous allez spontanément utiliser votre tasse à café comme presse-papier pour éviter que les papiers s'éparpillent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'on a approprié un objet, on s'est approprié un objet pour un usage pour lequel il n'était pas prévu. Et ça, c'est possible parce qu'en fait, ce qu'on reconnaît dans l'objet, ce n'est pas simplement que une tasse a été faite pour boire du café et un crayon pour écrire, mais c'est que ces objets, ils ont des caractéristiques de poids, de rigidité, etc., qui les rendent appropriés pour d'autres usages. Et en fait, on fait ça constamment. En fait, en préparant ces transparents, je faisais un petit peu de recherche sur le net, évidemment, et il y a des sites entiers de trucs et astuces pour s'approprier des objets du quotidien, une pince comme presse-citron, ou un peigne ici pour planter un clou sans se taper sur les doigts. Mais face à ça, le monde numérique, il n'est pas flexible. Ça, c'est Word. Alors, ce n'est pas pour taper uniquement sur Microsoft, j'aurais pu prendre n'importe quelle autre application, mais Word ne saura jamais faire que du texte avec des lignes horizontales qui rentrent dans des pages et qui utilise des polices de caractères, etc., en utilisant les outils que M. Microsoft a bien voulu mettre à ma disposition. Mais pour moi, créer des documents, c'est une activité plus riche que ça. Ça, c'est un manuscrit de Proust. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Proust s'il avait dû taper « La recherche du temps perdu » dans Word. Je ne sais pas si on aurait le même résultat. À droite, c'est une partition de musique où on voit en fait dans l'expressivité des gestes tout ce qu'a voulu transmettre le compositeur. Et puis le papier, ça sert aussi à ça, et je pense que même dans Word 2050, on ne pourra pas envoyer des avions en papier depuis Word, quoique, quand on sera tous dans le métavers peut-être. Je pince cette image un peu désespérante du monde numérique, mais tout n'est pas perdu parce qu'il existe des applications numériques flexibles. Et un bon exemple, ce sont les tableurs. Alors, le premier tableur, il a été créé par Dan Bricklin, qui est un étudiant de Harvard, qui devait étudier le management, où il avait, à l'époque, en 1979, besoin de passer beaucoup de temps à ajouter des colonnes de chiffres à la main. Et il avait acheté un Apple II, et il s'est dit, non mais c'est idiot, j'ai un ordinateur là qui sait faire des calculs, et moi je me perds mon temps à additionner des colonnes de chiffres. Mais l'idée de génie, c'est pas d'avoir fait un programme qui résolvait son problème, c'est d'avoir réfléchi plus largement, et au lieu de faire un système qui additionne des colonnes de chiffres, il a fait un système dans lequel on pouvait créer des formules qui permettaient de faire des calculs à partir des valeurs d'autres formules. Et il explique comment il a eu beaucoup de mal à concevoir cet algorithme, parce qu'il y a tout ce graphe de dépendance pour le réévaluer dans le bon ordre, parce que l'Apple II, ce n'est pas une machine très rapide, etc. Et les tableurs ont été utilisés de façon extrêmement créative pour beaucoup d'autres choses qu'additionner des colonnes de chiffres. J'ai trouvé ces exemples aussi en quelques clics. Des tortues ninja animées dans Excel, il fallait le faire quand même. À gauche, c'est la visualisation de la population dans Manhattan selon l'heure du jour et de la nuit. À droite, c'est un jeu de stratégie dont je ne connais pas les règles. Mais tout ce genre de choses a été produit parce qu'il y a eu cette idée de base qui était de dire, au lieu de répondre immédiatement à mon besoin d'ajouter des chiffres, je vais créer un système plus général, plus puissant, quelque chose que dans un instant, je vais appeler un substrat d'information. Alors, comment on peut essayer de passer de l'accident, je dirais, qu'a été le tableur, à une conception plus raisonnée, plus générative? Alors, un petit peu de théorie. L'action physique, c'est notre façon principale d'agir dans le monde. On agit par action physique sur le monde qui nous entoure. Alors, on agit aussi via le langage, mais le langage, il s'adresse à d'autres individus qui font pour nous. Donc là, on rentre dans les interfaces deuxième personne dont parlait Wendy, et c'est un autre sujet. Donc, je me concentre sur l'action physique directe. Et je constate que cette action physique, très souvent, elle est médiatisée par des outils. Le potier, il agissait directement sur l'argile, mais c'est un cas finalement assez rare. Très souvent, on utilise des outils pour dessiner, des outils pour cuisiner, des outils pour bricoler, des outils pour se mouvoir. Et en fait, l'être humain est un champion de la fabrication, de la conception et de l'usage d'outils. Alors, il y a des traces chez d'autres animaux d'utiliser des objets comme outils, et tout ça est très bien documenté. Mais l'espèce humaine est quand même la championne, toute catégorie, dans cet usage des outils. Ça remonte, on a trouvé des traces de façonnage d'outils, de silex taillés, jusqu'à plus de 3 millions d'années, donc chez des préhumains. Et sur ce site en particulier, on a trouvé qu'il y avait un endroit où il y avait des silex très bien taillés et d'autres qui étaient assez mal taillés, en fait. L'explication des anthropologues, c'est que, ou des paléontologues, c'est que, en fait, ce deuxième site était le site où on apprenait, probablement aux enfants, à tailler les silex, et c'est pour ça qu'ils étaient mal faits. Et donc, chez l'homme, il y a cette faculté de fabriquer des outils, d'inventer des outils et de transmettre ce savoir. Si on revient à James Gibson, dont Wendy a parlé dans la leçon d'introduction, l'auteur de cette théorie des affordances, l'idée que l'environnement nous offre des capacités d'action, Gibson parle un petit peu de l'outil, très peu, trop peu à mon goût, mais de manière extrêmement prémonitoire, si j'ose dire. Il dit, lorsqu'on utilise un outil, ça devient une sorte d'extension de la main, ce qu'il appelle un attachement, parce qu'il distingue entre objet attaché et détaché, une partie de son propre corps. Et je dis que c'était prémonitoire, parce que ça a été écrit dans les années 70, dans les années 90, des chercheurs japonais ont fait cette étude chez des singes macaques, qui montrent exactement ça, c'est-à-dire que ils ont identifié des neurones qui réagissent, le même neurone réagissent si je touche la main du macaque ou si je demande, ou si le macaque regarde sa main. D'accord ? Et donc l'idée, c'est qu'il y a ce lien entre la capacité d'action de la main et l'endroit où elle peut agir. Et puis il y a le même phénomène pour ce qu'on appelle l'aspect proximal, qui est entre l'épaule, toucher l'épaule, et regarder dans la zone autour de soi qui est accessible avec le bras. Donc ça veut dire que j'ai dans le cerveau, enfin j'ai en tout cas les macaques, mais on peut supposer c'est pareil chez nous, des neurones qui réagissent lorsque je focalise mon attention sur un objet qui est accessible. Et ce que ces chercheurs ont observé chez le macaque, c'est que si on les entraîne pendant un petit peu de temps à utiliser un outil, ici un râteau, pour aller chercher de la nourriture qui autrement ne leur est pas accessible, eh bien, assez rapidement, en fait, ces neurones se reconfigurent en quelque sorte et intègrent le fait que leur bras est plus long grâce au râteau. Et donc, les neurones distaux, ceux d'en haut, sont activés quand ils regardent l'extrémité du râteau, lorsqu'il en a besoin pour atteindre quelque chose. Et puis, les neurones proximaux sont activés sur une zone plus large, puisque maintenant, son champ d'action est plus large. Donc ça veut dire que vraiment l'espèce humaine a intégré l'utilisation d'outils dans le schéma corporel, dans les schémas mentaux, dans notre usage de, dans notre interaction avec l'environnement. Et il se trouve que par hasard, en fait par le hasard de l'Institut universitaire de France, j'ai rencontré il y a quelques années François Ouzirac, qui est un chercheur en neurosciences à Lyon, qui travaille depuis longtemps sur l'usage d'outils chez l'homme, et qui a notamment étudié ce qu'on appelle l'hypothèse, ici j'ai mis théorie, mais il l'appelle l'hypothèse du raisonnement technique, qui est une explication des mécanismes cognitifs qui nous permettent justement d'approprier des outils. Des objets plutôt comme outils. Qui n'a jamais utilisé un couteau comme tournevis, un manche de fourchette pour remuer son café, etc. On le fait sans y réfléchir. Ce que François Ouzirac a montré, par des études notamment en IRM ou des études avec des patients qui souffrent d'apraxie, c'est que, en fait, il a étudié des patients qui sont incapables de reconnaître qu'une fourchette sert à manger, mais que si on les met dans une situation où ils ont besoin de la fourchette pour effectuer une tâche, comme manger, ils vont spontanément s'en servir. Et donc, l'idée, c'est qu'on a dans notre mémoire une mémoire sémantique qui nous permet de savoir qu'un un objet sert à tel usage, mais si on n'a pas cet objet sous la main, on va activer un autre réseau, qui est celui de raisonnement technique, qui est forgé sur des principes techniques que l'on connaît. Pour couper quelque chose, il fait un objet dur et rigide, qui soit plus dur et plus rigide que l'objet que je vais vouloir couper. Et une fois qu'on a identifié les propriétés nécessaires, on va pouvoir chercher dans notre environnement des objets qui satisfont ces propriétés. Le crayon est rigide et droit, je peux tracer un trait avec, etc. Et donc c'est ça qui en fait régit la possibilité d'appropriation d'objets en fonction de leurs propriétés, et non pas de leur qualité d'objet en tant que tel. Et donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en œuvre, en quelque sorte, ces concepts théoriques dans la conception d'interface. Pour faire ça, je vais à nouveau référencer ce que Wendy a présenté dans la leçon introductive, ce schéma de la recherche en sciences de la nature, où on va et vient entre théorie et observation. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est la version des sciences, je dirais plus de l'ingénierie, des sciences qui fabriquent les artefacts qu'ils étudient, qui fabriquent les phénomènes qu'ils étudient, on a des va-et-vient entre théorie et observation pour fabriquer ces artefacts et les améliorer au cours du temps. Dans le domaine de l'interaction humain-machine, et c'est quelque chose qui sera couvert, je pense, dans la prochaine leçon, on utilise beaucoup de méthodes de conception. Alors, beaucoup de ces méthodes de conception, elles ont des influences théoriques, mais elles sont fondées sur l'observation des usages, l'observation d'utilisateurs, et sur la fabrication de prototypes d'interface, par exemple, pour répondre aux problèmes que l'on observe, aux besoins que l'on observe. Mais en fait, le lien avec les concepts théoriques tels que ceux que j'ai évoqués sont souvent assez lâches, assez ténus. Dans notre concept de théorie générative, ce que l'on a voulu développer, c'est l'étage au-dessus dans ce schéma, c'est-à-dire comment opérationnaliser, pour utiliser un terme un peu compliqué, des concepts théoriques d'une manière qui nous permette de générer de nouvelles idées pour créer de nouveaux artefacts. Et pour les confronter évidemment à l'observation et voir si ça fonctionne ou pas, parce que l'application de la théorie ne va pas forcément marcher à tous les coups, mais d'enrichir donc cette boîte à outils, je dirais, pour la conception d'interface. Et donc, dans ce niveau vert, ici, on parle de concepts et de principes génératifs. Et ce que je vais faire, c'est vous présenter deux concepts que l'on a développés au cours de ces nombreuses années de collaboration, et puis deux principes. Et donc ces concepts, ils sont centrés sur cette idée que on va essayer de focaliser l'attention sur les propriétés des objets plutôt que sur les objets eux-mêmes, parce qu'on l'a vu avec l'usage d'outils, avec l'hypothèse du raisonnement technique, ce sont les propriétés des objets qui sont importantes si on veut de la flexibilité, de l'appropriation. Ces deux concepts, ce sont les substrats interactifs et les instruments d'interaction. Alors, le terme substrat, c'est un terme qui est utilisé dans beaucoup de domaines. En biologie, c'est l'environnement qui va nourrir la plante. En électronique, c'est la carte mère sur laquelle on va implanter les circuits. Donc, c'est quelque chose qui est là pour donner un contexte, je dirais, un environnement satisfaisant à ce qui nous intéresse, la plante chez le biologiste, les circuits imprimés chez le concepteur électronicien. Cette idée de substrat, j'ai envie de la pousser un peu en disant il y a les substrats physiques, c'est ce qu'on vient de voir, mais est-ce qu'on peut parler de substrat d'information ? Lorsque je regarde cette partition, je ne vois pas de l'encre sur une page. Ce que je vois, c'est une partition de musique parce qu'il y a une portée et que je peux du coup interpréter les notes par rapport à cette portée. Et même dans des cas peu structurés, comme cette palette de peintre à droite, le peintre n'a pas réparti les couleurs au hasard. Il l'a fait en anticipant les mélanges qu'il aurait besoin de faire, ou ses préférences, ou je ne sais quoi. Et donc, il y a une structure probablement cachée qui a du sens pour le peintre et qu'il va exploiter. Et donc, l'idée de substrat, c'est de fournir de la structure. Et donc, si je pousse ça une étape plus loin vers le monde numérique, dans nos outils numériques, on a déjà des substrats informationnels interactifs. Si vous utilisez un logiciel comme Photoshop, dans Photoshop, une image, ce n'est pas juste une image plate, c'est en fait un ensemble de couches, un peu comme des celluloïdes que l'on peut empiler, et l'image finale, c'est le résultat de cette superposition. Et chaque couche peut avoir des propriétés particulières, du contenu, elle peut filtrer, etc. Et un utilisateur de Photoshop ne peut pas utiliser Photoshop de manière efficace, il ne comprend pas quelle est cette structure sous-jacente. Lorsque vous utilisez un tableur, si vous êtes le concepteur, que vous créez les formules, mais même en tant qu'utilisateur, vous voyez bien qu'il y a des dépendances qui sont cachées. Ici, elles ont été affichées en bleu pour qu'on les voit bien. Vous ne les voyez jamais comme ça. Mais elles sont là et vous le savez. Donc, l'information est structurée et on peut lui donner des structures qui permettent de l'enrichir et de lui donner plus de pouvoir. Donc un substrat interactif, tentative de définition, c'est une structure d'information qui contient les objets d'intérêt, c'est-à-dire ce qui va intéresser l'utilisateur. Un peu comme tout à l'heure, la terre qui permet à la plante de pousser, il faut que je mette les bons ingrédients dans la terre, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est la plante. L'objet d'intérêt, c'est la plante. Ici, c'est pareil. Le fait que j'ai des couches, le fait que j'ai des cellules dans un tableur, c'est important de savoir, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse en soi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais pouvoir faire avec. Et donc, un substrat va créer et définir des relations entre des propriétés des objets. Alors, dans l'exemple du tableur, la structure, c'est la grille de cellules ou de cases. Les objets qui m'intéressent, c'est le contenu de ces cases, les valeurs numériques, si je prends un tableur assez classique. Et les relations, c'est les formules que j'ai créées pour justement relier ces cellules entre elles. Alors, je vais donner deux exemples d'outils logiciels qui ont été développés. Alors, pas explicitement avec la notion de substrat, puisque c'est par des collègues, Jennifer Jacobs ici, qui était étudiante en thèse au MIT à l'époque. Mais lorsque je regarde ce qu'elle a fait, pour moi, ça évoque vraiment l'idée d'avoir créé un substrat. Donc, c'est pour la création graphique. Et l'idée, c'est de pouvoir gérer dans un outil de création graphique des familles d'objets, des collections d'objets. Ici, j'ai cette rangée de cercles et de carrés, et je peux la contrôler avec ces deux poignées rouges ici qui déterminent leur répartition. Mais en fait, là, je suis dans une répartition linéaire, je peux passer une répartition radiale en X et en Y, et tout d'un coup, mes objets sont répartis comme sur un cercle. Alors ici, on a un autre exemple où on va voir que la famille d'objets peut être modifiée de manière graduée. Donc on va créer une famille d'ellipses. Voilà, on en met 8. Et on voit que si je change la couleur de la dernière, la couleur de la première ne change pas, mais entre les deux se crée un gradient. Alors ça marche pour la couleur, ça marche pour la taille, Et puis, on va le voir, là, on va changer le nombre d'intermédiaires, donc on peut changer ça en cours de route, on peut en mettre 15, et puis là, on va agir sur la forme elle-même, en déformant toute la famille. Alors, dans la séquence suivante, on va voir comment on peut créer un champ d'étoiles. J'ai créé un exemplaire d'une étoile, j'en fais une famille, comme on l'a vu jusque-là, on va en mettre beaucoup plus, on va créer un groupe. Ensuite, on va changer la taille d'une extrémité, la couleur peut-être d'abord, pour avoir une gradation de luminosité. On va changer la taille pour aussi avoir des étoiles plus grosses et d'autres plus petites. Et puis évidemment, les étoiles ne sont pas alignées comme ça dans le ciel, donc on va passer à une répartition qui n'est pas linéaire, mais qui est cette fois aléatoire. On va sélectionner random ici. Et du coup, ici, les étoiles sont aléatoires dans leur position en Y, et maintenant X et Y, et on a ce champ d'étoiles. Mais il n'empêche qu'elles maintiennent la relation entre elles, ce qui fait que lorsque l'on va en déplacer une, la redistribution se fait à chaque mouvement. Et puis si je change leur aspect, on voit que ça s'applique à nouveau à toute la famille. Et donc on voit qu'avec cette application, on crée des structures dont on a un contrôle assez fin. Alors, notre exemple qui est issu de travaux dans notre équipe, de Rita Jalal et Nolwenn Modé, qui étaient doctorantes à l'époque, qui se sont intéressés à la façon dont les artistes graphiques manipulent les couleurs dans leurs applications. Et ils sont en général assez frustrés de ce type d'interface où on crée une palette et puis on a juste ces petits carrés qui sont les uns à côté des autres et sur lesquels on n'a pas beaucoup de contrôle. Et elles ont créé deux mini-prototypes. Le premier ici qui s'appelle Palette Explorer, l'idée c'est qu'au lieu d'avoir ces petits carrés les uns à côté des autres, en fait je les mets dans un espace où je peux les redimensionner, les superposer, les organiser comme je veux, parce que tout graphiste sait que la perception d'une couleur dépend de la couleur qui est autour, de la couleur qui est à côté. Et donc si je veux créer des palettes qui fonctionnent, il faut que je puisse juger de ces effets de superposition. Le deuxième exemple ici, c'est l'idée que c'est le système qui va proposer des variations. Et l'utilisateur, ici, va en fait exprimer son intérêt en cliquant sur des bulles avant qu'elles ne disparaissent, et ça va orienter les propositions du système pour imaginer des couleurs et pouvoir les combiner. On est ici dans une approche un peu de partenariat humain-machine qui sera l'objet de la dernière leçon. Mais on voit que ce que l'on fait, c'est que quand on pense à une palette de couleurs, on pense uniquement à la propriété couleur. Mais en fait, la couleur dans la vraie vie, si j'ose dire, elle n'existe pas détachée du reste, elle existe dans un contexte. Donc il faut donner des outils, des moyens de fabriquer ce contexte, d'explorer ce contexte, et pas la couleur juste pour elle-même. Alors, concept de base dans cet exemple de théorie générative, c'est la notion d'instrument d'interaction. J'ai insisté sur l'importance de l'outil, sur le rôle de l'outil. Moi, j'aime bien utiliser le terme instrument parce que ça évoque un instrument de musique, ça évoque la virtuosité. Et puis, instrument, ça fait instrumental, donc je parle d'interaction instrumentale. Un instrument d'interaction, c'est quoi ? C'est l'idée qu'entre l'action et l'intention en fait, de l'utilisateur et l'objet sur lequel il veut agir, eh bien, il y a un instrument, un outil, un intermédiaire. Donc l'utilisateur agit sur ici le crayon, il doit se saisir du crayon pour le manipuler. Donc il a un retour informationnel, la forme du crayon, est-ce que la mine, par exemple, est tendre ou dure, etc. Donc tout ça, on le perçoit directement. C'est le crayon qui, lui, va agir sur l'objet, donc laisser des traces ici sur une feuille de papier, avec deux retours, de l'objet vers le crayon lui-même, la mine va s'user, et puis en retour vers l'utilisateur lui-même, puisqu'il va voir les traces qui sont laissées sur le papier. Donc on voit que par rapport au phénomène d'interaction tel qu'il avait été évoqué tout au début, où j'ai l'utilisateur, le système, et puis juste une flèche entre les deux, quand j'introduis un outil, j'ai quelque chose de plus riche. J'ai ces trois retours d'information en fait, qui sont en jeu. Lorsque j'interagis avec un ordinateur, en fait, l'idée, c'est d'appliquer un peu le même principe, de dire, au lieu de parler de manipulation dite directe, où je ne peux que toucher les objets directement pour les déplacer, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je peux mettre un outil au milieu, un instrument ? Des exemples d'instruments, on en a, et dans la leçon à l'instant, Wendy en a évoqué certains, comme la barre de défilement. La barre de défilement, ce n'est pas un objet que vous connaissez dans le monde physique et qu'on a transposé dans le monde numérique. Dans le monde physique, on a résolu le problème des textes qui sont trop longs avec de la pagination et un objet qui s'appelle le livre. Dans le monde numérique, on a décidé, non, les pages, ce n'est pas terrible, on va garder nos documents de 3 km de long et on va inventer cet appareil, cet instrument, la barre de défilement pour pouvoir naviguer dedans. Et donc, j'interagis avec la barre de défilement qui, elle, interagit avec l'objet d'intérêt. À ce propos, vous pouvez dire, ouais, mais bon, ça, c'était le vieux temps. Aujourd'hui, on scrolle tous avec le doigt, le défilement direct, comme ça a été évoqué. En fait, le défilement direct, c'est très inefficace. Si vous avez un document de 300 pages, ça prend beaucoup de temps d'aller sur les 300 pages, alors qu'avec une barre de défilement, vous pouvez y aller beaucoup plus vite. Donc, l'outil peut quand même avoir des avantages. Et ce qui va être intéressant, c'est justement de créer pléthore d'outils que les utilisateurs pourront décider d'utiliser ou pas, d'acheter ou pas, peut-être un par un. Je ne sais pas si vous connaissez l'encyclopédie de D'Alembert, mais qui est en fait fondamentalement un catalogue des outils qui étaient en usage à l'époque, les outils du menuisier, les outils du paysan, du fermier, etc., etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même chose dans nos environnements numériques, des collections d'outils que je puisse me procurer, comme quand je vais chez... le marchand du coin va acheter mes pinceaux et mes stylos. Alors, des interfaces instrumentales, le concept en soi n'est pas nouveau. Beaucoup d'applications de dessin, par exemple, vous montrent des plumes, des stabilos, des pinceaux, etc. Donc, s'inspirent de cette métaphore de l'outil. La Wiimote, par exemple, on pouvait acheter tout un tas d'extensions du contrôleur qui est là pour capter votre mouvement pour qu'il ressemble à une canne de golf, à une raquette de tennis pour non seulement avoir un meilleur engagement, j'imagine, dans le jeu, mais parce que la configuration de cette extension va aussi vous fournir un retour kinesthésique différent et vous donner encore plus la sensation de jouer au tennis. Donc, cette idée de médiation dans l'interaction n'est pas en soi nouvelle, mais encore une fois, l'idée, c'est ici comment on peut la systématiser pour l'explorer. Donc, un instrument d'interaction, c'est un objet manipulable par l'utilisateur et qui peut agir sur les propriétés d'autres objets. Alors, un premier exemple, puisque j'ai utilisé le terme d'instrument, on va commencer par un instrument de musique, qui est la Reactable de Sergi Jordà de l'Université de Barcelone. Un dispositif qui a un grand succès parce qu'il a par exemple été utilisé par Björk dans plusieurs de ses tournées. Mais ça illustre bien à la fois le principe, le concept de substrat et le concept d'instrument. Alors ici j'ai besoin du son, donc on va voir si le son. Voilà, parfait. Donc c'est une table tactile, on peut utiliser le doigt, mais la table reconnaît aussi ses différents tokens, ces différents objets physiques qu'on peut poser dessus. Et chacun a un rôle différent pour transformer ou produire du son. Et donc ici, le musicien, en fait, conçoit son instrument de musique. La table, c'est une espèce de substrat qui lui permet de construire ce réseau de dépendance. Et puis, chacun des cubes et des différents objets ont des caractéristiques différentes et il peut les manipuler directement, les enlever, les mettre, etc. Et donc on voit ici une interface extrêmement puissante parce que l'utilisateur peut vraiment se l'approprier. On peut même imaginer qu'il conçoive ses propres blocs liés à des types de traitements numériques du son particulier, etc. Donc c'est vraiment une bonne illustration de la puissance à la fois de la notion de substrat et de la notion d'outil pour interagir avec le contenu de ce substrat. Alors un autre exemple qui est issu de travaux que l'on a fait il y a un certain nombre d'années maintenant avec des neuroanatomistes qui avaient à leur disposition des banques de données de scan du cerveau, mais qui ne pouvaient les explorer que par le petit bout de la lorgnette depuis leur écran 27 pouces, comme tu disais, sur leur bureau. Et puis, le cerveau, c'est une entité compliquée, donc il faut pouvoir le regarder sous tous les angles, etc. Et lorsqu'on les a fait venir dans notre salle équipée de grands murs d'écran, ils ont tout de suite dit, moi je veux voir mes 512 cerveaux sur ce mur d'écran et je veux pouvoir les manipuler tous en même temps. Et ils ont spontanément eu l'idée d'utiliser un cerveau physique, enfin en plastique, indirectement, mais de manière tactile, je dirais vraiment, manipuler ça. Alors on voit ici un très court clip, où en fait on peut bouger le cerveau. La baguette est une sorte de caméra virtuelle, donc je peux bouger la baguette autour du cerveau ou je peux bouger le cerveau, donc j'ai une interaction bimanuelle. Et en fait, tous ces cerveaux, alors qui pour vous et pour moi se ressemblent beaucoup, mais qui sont tous différents, sont des parties de cette base de données. Et le rôle des neuroanatomistes, c'est justement de détecter les différences pour identifier certaines pathologies, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que, en fait, cette idée d'utiliser ce cerveau et cette baguette comme outil intermédiaire est venue spontanément des utilisateurs eux-mêmes, alors qu'ils étaient très habitués à un logiciel ou à la souris, on pouvait manipuler de manière assez inconfortable le même type de visualisation. Maintenant qu'on a ces deux concepts d'instrument et de substrat, dans nos recherches, il est apparu qu'on avait besoin d'autres choses pour pouvoir susciter l'imagination et pour pouvoir inventer de nouvelles formes d'interaction. Et il y en a un certain nombre, mais ici je vais en développer que deux, qui sont la réification et le polymorphisme. Alors, le principe de réification, c'est quelque chose que l'on s'est vu utiliser avant qu'il ait un nom, c'est de se dire... Quand je suis dans une situation où j'ai un concept relativement abstrait, une commande qui est dans un menu, qui a un nom, qui n'est pas forcément toujours évocateur, est-ce que je peux le transformer, ce concept abstrait, en un objet concret que l'utilisateur va pouvoir manipuler ? Donc c'est le principe de réification. Réification, ça vient du latin res, la chose, donc chosifier. Alors, premier exemple, je vais reprendre quelque chose qui a déjà été présenté, parce que, d'une part, ça a été le déclencheur un peu de cette approche de recherche, et parce qu'il me semble particulièrement évocateur, c'est la réification de la commande d'alignement, qui est de dire « je veux aligner ces objets, là, maintenant », en un outil d'alignement qui me permet de les aligner, mais en les attachant à un guide magnétique, et aussi qui est un substrat, puisque une fois que ces objets vont être attachés, je vais les maintenir attachés à ce guide, je vais pouvoir déplacer le guide avec les objets qui sont dessus. Alors je vais remonter un tout petit segment de la vidéo qui était présentée par Wendy dans la leçon inaugurale, et que je vous encourage à aller voir si vous n'étiez pas là. Donc voilà le principe, le guide est là, j'attache les objets, je bouge le guide, les objets bougent. Vous avez vu ça une fois, vous avez compris. Aucune application aujourd'hui ne fait ça. Pourtant, notre papier est en accès libre, il n'y a pas de brevet, tout le monde peut s'en servir. Mais voilà, c'est la dure réalité. Et donc, ce que l'on a vu dans la vidéo, c'est qu'on peut aligner les objets sur plusieurs guides à la fois, par leurs côtés, leurs extrémités, etc. Et en fait, lorsqu'on a présenté ça à des artistes graphiques, ils nous ont dit « ouais, c'est bien, mais là, vous alignez au milieu du centre de l'objet ou sur ses bords ». Et moi, quand j'aligne des logos, par exemple, il faut toujours que je bricole un petit peu. Et donc ça a donné lieu à une autre réification, qui est ce qu'on appelle les tweaks en anglais, un bricolage. Donc ici, on voit un petit objet mauve qui apparaît. C'est quand j'utilise la flèche pour déplacer l'objet, pour faire un placement précis. Et cet objet mauve, c'est la réification, c'est la visualisation, la manifestation du fait que j'ai voulu tricher avec le centre de cet objet ou sa bordure. Le décaler, en fait. Et en fait, une fois que que ce décalage est devenu un objet, eh bien, je peux le prendre, le copier, le détruire, etc. Et je n'ai pas besoin d'avoir des commandes, des menus en plus, etc. C'est un objet de plus dans mon espace de travail. Alors, un autre exemple qui me semble particulièrement évocateur de ce concept de réification, c'est les travaux de Haijun Xia, qui a fait sa thèse à l'Université de Toronto, qui est maintenant à l'Université de San Diego, sur ce qu'il appelle « object-oriented drawing ». Et l'idée ici, c'est de réifier les attributs graphiques, c'est-à-dire réellement les propriétés graphiques, la couleur, l'épaisseur du bord, l'ombre, etc., dans un dessin. C'est parti ? Non, c'est pas parti. Voilà. Donc très rapidement, l'idée, c'est que on va représenter les différents attributs par ces pavés, et on va pouvoir manipuler ces pavés comme des objets à part entière. Donc là, il donne une vue d'ensemble très rapide qu'on va détailler un petit peu. C'est sur une interface tactile, donc il utilise l'interaction bimanuelle, les deux mains. Et donc, lorsque je tape sur un objet, ces attributs apparaissent. Je peux les faire apparaître sur plusieurs objets simultanément. Et lorsque je tape sur l'un de ces pavés, ben, je peux éditer ces valeurs, comme la couleur, l'épaisseur, etc. Si un attribut ne m'intéresse pas, je peux le retirer, je peux le remettre. Vous voyez que ça a changé l'aspect puisque j'ai retiré la bordure ici. Et puis si je veux plus d'attributs, je peux tirer vers la droite et puis rajouter par exemple ici une ombre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que cet attribut est devenu un objet à part entière, ben, je peux avoir envie de le partager entre des objets. Donc ici j'ai cette ampoule qui utilise un flou gaussien. Qui m'intéresse pour le mettre sur l'ombre, et donc j'ai pu le prendre et le copier et le mettre dans l'ombre. Mais je peux faire quelque chose d'encore plus puissant, qui est de lier ces attributs, c'est-à-dire pas de le prendre et de le copier, mais vraiment que le même attribut soit utilisé pour l'ampoule et son ombre, de telle sorte que si je change la couleur, ben, ça va s'appliquer à ces deux objets. Donc, je pense que je vais en rester là parce que le temps court un peu vite. Ce qu'on voit ici, c'est que cette idée qu'un attribut devienne un objet à part entière donne une puissance d'expression très importante. Ici, par exemple, en liant les attributs de position, bah, il a créé un alignement d'objets qui sont centrés les uns sur les autres parce qu'ils ont tous le même X et Y. Ici, je veux contrôler des choses comme l'épaisseur, ou dans un instant le décalage de l'ombre, je peux par l'interaction bimanuelle toucher la tuile et puis utiliser mon doigt pour régler un paramètre en une ou deux dimensions. Ici j'utilise un stylo pour dessiner et je vais détacher des tuiles pour avoir une sorte de palette de couleurs. Donc ici je vais utiliser la couleur de cette tuile, mais après en tapant sur la feuille je vais dire que je vais utiliser la couleur de cette feuille. Donc on voit la richesse de cette interaction bimanuelle ici, où je peux à la fois fixer des paramètres, ici je peux assembler différentes tuiles ensemble pour en faire une sorte de style, que je vais pouvoir appliquer avec un doigt sur la tuile et puis ensuite en dessinant. Donc vous voyez que l'enrichissement en fait vient de lui-même, les tuiles ont un historique, je peux naviguer l'historique, etc. Alors, peut-être que vous dites à ce stade, bon, tout ça, vous m'avez montré des exemples, c'était un peu de la musique, c'était beaucoup de l'interaction graphique, de la production de graphiques. Mais en fait, cette idée de réification, on peut l'utiliser aussi pour du texte, et ça, c'est des travaux qui ont été faits par mes étudiants, Han, qui est pas là aujourd'hui, qui était là la semaine dernière, et Miguel Renom, où on a travaillé avec des juristes. Alors, c'est moins sexy de travailler avec des juristes qu'avec des artistes graphiques, mais il faut un travail difficile, en particulier dans les textes juridiques, il faut que les bons mots soient utilisés. Et donc, on a eu l'idée, en fait, en les observant, de pouvoir réifier la notion de sélection. Quand vous sélectionnez du texte, dès que vous cliquez ailleurs, la sélection est perdue, on passe à autre chose. Et souvent, vous vous retrouvez à resélectionner les mêmes morceaux de texte encore et encore. Et en particulier, ils font ça très souvent lorsqu'ils doivent modifier un texte. Ils se sont entendus sur un terme différent à utiliser, etc. Donc, ce qu'on appelait un textlet ici, c'est un objet qui mémorise en fait ce qui avait été sélectionné. Donc, il apparaît dans cette colonne à droite. Je vais en créer trois ici. Et l'action de base, c'est qu'en recliquant à droite, je resélectionne le texte et du coup, je peux changer en italique, en gras, etc. Donc c'est vraiment mémoriser une sélection. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on se dit, oui, mais on peut peut-être aller au-delà de ça. Une fois que j'ai mémorisé cette sélection, je peux peut-être lui attribuer un comportement. Alors, le premier exemple que je vais montrer, c'est compter les mots d'un résumé. Quand on rédige un brevet, l'abstract ne doit pas faire plus de 150 mots. Donc, on passe son temps à resélectionner, à faire compter les mots. Ah non, il y en a trois de plus. On édite, on resélectionne. Vous avez tous fait ça ? OK. Ici, ben, j'ai créé un textlet que j'appelle un countlet, c'est-à-dire un textlet qui va compter les mots. Le compte de mots s'affiche en temps réel. Là, j'ai dit que j'en voulais 150, donc tant qu'il y en a plus de 150, c'est en rouge. Bon, je raccourcis mon abstract. Là, je suis passé en dessous de 150 et c'est passé en vert. Et au fur et à mesure que j'édite, je vois le compte. Quand je n'en ai plus besoin, je détruis le textlet et puis c'est oublié. Autre exemple ici, c'est pour mémoriser différentes variantes d'un texte. Alors, on a aussi tous fait ça, où on met les variantes les unes en dessous des autres, et puis voilà. Ici, en fait, elles sont mémorisées dans un textlet, et je peux changer entre plusieurs variantes et voir l'effet sur le texte. Je vais passer à cette étape, bon, qui est une autre application, pour montrer le dernier exemple ici, qui sont ce qu'on appelait les searchlets. Donc ici, c'est pour faire de la recherche. L'idée, c'est que je vais chercher le mot « insert » et je vais afficher toutes les occurrences dans le texte, mais je vais aussi les afficher sous forme de textlet à droite. Je vais pouvoir faire plusieurs recherches de plusieurs mots simultanément, aussi quelque chose qui n'est pas en général possible aujourd'hui. Et maintenant, une fois que j'ai fait ces recherches, je vais pouvoir faire du remplacement. Et là, au lieu d'avoir à remplacer un par un en prenant la décision à chaque fois, ou tout d'un coup en croisant les doigts que je n'ai pas fait de bêtises, je vais pouvoir en fait identifier chaque occurrence, est-ce que je la remplace ou est-ce que je ne la remplace pas, ou bien je remplace tout et puis après je vais revenir sur une que j'avais remplacée et puis annuler le remplacement. Et donc je garde à nouveau le contrôle sur la façon dont je cherche des chaînes de caractères et je les remplace. Lorsqu'on a fait essayer ça par les juristes avec lesquels on travaillait, il y en a un qui a eu spontanément l'idée de dire « Ah, je vais me faire un searchlet pour les termes que je ne dois pas utiliser dans ce contrat. » Ce qui fait que si je le tape par erreur, il va se mettre en évidence et ça va me dire « Ah bah oui, ça, il ne fallait pas que j'utilise ce terme-là parce qu'on a décidé de ne pas l'utiliser. » Exemple d'appropriation. Dans l'exemple suivant, qui est fait avec toujours avec Han Han, mais aussi avec Jun Hang qui est ici, on a travaillé avec des scientifiques qui écrivent des articles, et on a étendu cette notion de textlet pour que le textlet ne reste pas enfermé dans son document d'origine, mais qu'on puisse l'emmener d'un document à un autre. Donc ça, c'est son document d'origine. Je vais le prendre pour le mettre dans une table, par exemple, parce que je suis en train de faire une recherche de littérature et d'organiser ce que j'ai trouvé, ou je vais le mettre dans un texte pour pouvoir le citer, mais au fur et à mesure que je le déplace, il mémorise sa provenance, son origine, et je peux revenir à la citation d'origine. Si vous n'avez jamais écrit un article scientifique ou quelque chose où on doit faire des citations, vous savez que c'est toujours frustrant quand on n'arrive pas à retrouver d'où ça vient. Deuxième principe que l'on a développé et appliqué, c'est l'idée du polymorphisme. Une fois que j'ai créé, la réification permet de créer de nouveaux objets interactifs, est-ce que je peux rendre ces objets plus puissants ? Alors on peut le faire de deux façons. Une première façon, c'est de dire qu'un outil va pouvoir agir sur des objets de nature différente. Quelque chose que je trouve toujours très frustrant, c'est que chaque application a son sélecteur de couleurs. Vous êtes dans Word, ça ressemble à ce qui est à gauche. Vous êtes dans Photoshop, c'est ce qui est au milieu. Moi, peut-être, j'aimerais utiliser une palette de peintre comme à droite ou un dispositif qui me permet d'aller pêcher une couleur dans la nature. La couleur, que ce soit pour du texte, pour du dessin, dans une application de vidéo, etc., ce devrait être moi qui devrais pouvoir choisir en fait quel sélecteur de couleurs utiliser. Donc, un sélecteur de couleurs polymorphe, ce serait un sélecteur de couleurs, un outil qui me permettrait de sélectionner et d'affecter des couleurs, quel que soit l'objet, pourvu qu'il ait une couleur. Et donc l'idée à nouveau, c'est de revenir à cette notion de propriété. Quelle est la propriété de l'objet ? Si un objet a une couleur, je dois pouvoir changer sa couleur. Si un objet a une position, je dois pouvoir l'aligner avec mes guidelines, etc. Mais un autre principe de polymorphisme, c'est que les modifications que l'on fait dans un substrat, c'est que l'information peut être représentée de manière différente et ces différentes représentations doivent être coordonnées. Donc on va voir ici deux exemples. Le premier s'appelle histomage, et c'est une idée que je trouve vraiment extraordinaire par Fanny Chevalier et Pierre Dragicevic. Fanny est à l'Université de Toronto et Pierre est à l'INRIA Bordeaux actuellement. L'idée, c'est que, si vous connaissez la notion d'histogramme de couleur, c'est la répartition des couleurs dans une photo en fonction soit de leur teinte, soit de leur saturation, soit de leur luminosité. Et l'idée ici, c'était que en fait, les pixels que vous voyez à droite dans ces histogrammes sont exactement les mêmes pixels que ce qu'il y a dans l'image. Ils ont juste été positionnés différemment. Et donc, je peux sélectionner des pixels à droite. Ici, dans ce canal bleu, c'était toute la partie du ciel. Et en fait, sélectionner exactement ce qui correspond dans la partie gauche. Et si j'étale le spectre de bleu, je vais agir sur la couleur du ciel sans toucher au reste. Donc j'ai différentes représentations de mon image, certaines qui sont plus appropriées que d'autres pour faire certaines manipulations. On va voir un deuxième exemple ici, où on va utiliser la brosse pour sélectionner une partie du spectre. On voit à gauche exactement tout ce qui est sélectionné. On va retoucher un peu à gauche avec la même brosse de peinture, parce que les pixels sont des pixels. Ici, je vais passer dans une autre représentation qui sont cette fois par teinte. Grâce à ces différentes manipulations, j'ai pu sélectionner uniquement la montagne. Et maintenant, je vais bouger la montagne dans l'histogramme de teinte et je vais la rendre verte. Petit autre exemple que je ne résiste pas à montrer. Vous connaissez tous l'image célèbre d'Obama. Voilà comment réaliser cette image. Ici, ils ont fait un spectre dans le, un histogramme dans le spectre vert. On pioche des couleurs en bas et on fait de la peinture par rapport à niveau de saturation dans le vert. Et en trois coups de pinceau, presque littéralement, on crée cette image. Ici, on sélectionne la partie blanche à droite qui est le fond et on fait un coup de peinture qui nous permet de terminer tout ça. Voilà, donc vous voyez, en ayant ce polymorphisme des représentations, différentes représentations coordonnées d'un même objet, on obtient une puissance d'expression assez considérable. Deuxième exemple, c'est aussi l'idée d'avoir plusieurs représentations, mais cette fois, on ne les voit pas de manière simultanée, mais on va pouvoir naviguer entre un niveau d'interprétation et un autre. Donc ici, on a écrit 24 heures, et puis c'est devenu une horloge. Ici, on trace à main levée une grille, et ça, c'est le geste d'interprétation, ça devient un tableau, on peut lui rajouter une colonne. Après, on se dit, ah ouais, mais je voulais mettre un titre là-haut, donc je vais effacer ces cases-là, je le refais interpréter. Du coup, j'ai une case de titre en haut, je peux écrire à main levée. Comme je suis dans ce mode d'interprétation de mes gestes, ce que j'écris va être immédiatement traduit en texte typographique. Ici, je crée une liste. Je vais interpréter la liste, donc reconnaissance d'écriture. Mais si je vais un niveau plus loin, il reconnaît que c'est en fait une liste du style to-do list où je peux cocher des cases. Puis après, je change d'avis, donc je reviens en arrière dans mon niveau de représentation. Je vais entourer chacun des objets et je vais pouvoir les utiliser comme les éléments d'un diagramme. Donc vous voyez qu'en jonglant avec ces différents niveaux de représentation, eh bien, on obtient à nouveau une puissance d'expression beaucoup plus importante qu'avec les outils classiques de prise de notes. Et donc, il me semble que ce qui est important ici de retenir, c'est cette idée que l'information existe à différents niveaux de représentation ou d'interprétation. Je peux avoir une table de données, mais en fait, dans ma tête, c'est vraiment des données que je vais représenter sous forme de graphe. Ce graphe, je vais vouloir le représenter sous forme de graphique, sous forme d'histogramme. Et puis cet histogramme va être finalement représenté par des pixels à l'écran. Et en fait, selon la représentation sur laquelle je veux travailler, je vais pouvoir utiliser des outils différents. Un outil de saisie pour modifier le contenu de la table, un outil où je vais sélectionner si je veux plutôt un graphe ou un camembert ou autre chose, un outil pour changer la couleur de ces formes graphiques qui sont les rectangles, un outil pour peindre sur mes pixels ou faire ce que l'on voyait tout à l'heure avec histomage. Et donc, en combinant le polymorphisme sur les représentations d'une même information et l'interaction instrumentale, j'obtiens une plus grande puissance d'expression. Il me reste 2 minutes pour la dernière vidéo, qui est un système que nous avons conçu et réalisé avec des collègues de l'Université d'Aarhus, Clemens Klokmoos en particulier, où on a voulu pousser cette idée de substrat dans un environnement bien connu qui est celui du web, en se disant, est-ce que l'on peut rendre chaque page web éditable par tout le monde ? Alors, vous connaissez peut-être Google Docs. Google Docs, ça veut dire que c'est une application. Il faut aller dans Google Docs, utiliser l'interface de Google Docs pour éditer un document. Si vous avez regardé le code HTML qui est dessous, c'est une horreur. Mais ça marche. Ici, on a voulu dire, prenons le langage HTML en tant que tel et faisons en sorte qu'il puisse être partagé par toute personne qui va accéder à cette page et que toute modification soit visible par tout le monde. Et donc, on a créé ce prototype qui s'appelle WebStraits. Donc ici, j'ai un texte qui est sous une forme non formatée. Et à droite, sur la tablette, j'ai le même texte qui est formaté en 2 colonnes, justifié, etc. C'est le même texte qui veut dire que lorsqu'il édite ici le titre, ça change à droite. Là, il enlève un paragraphe, ça change à droite. C'est réellement synchrone. À un moment donné, il va vouloir, par exemple, faire un dessin à main levée. Et donc, il va dessiner sur une tablette. Mais cette image, il l'a incorporée dans son document. Donc, elle apparaît à droite en temps réel. Et puis ici, dans un autre éditeur, ce n'est pas Illustrator, il doit créer les formes à la main, mais l'idée, c'est que quelqu'un d'autre pourrait rendre cette image plus propre et on verrait les modifications en temps réel. Ici, on a un outil de citation, j'écris Weiser pour citer Mark Weiser, je clique sur le bouton Cite et c'est transformé en une référence. Cette citation, elle est venue d'une base bibliographique que l'on voit ici, qui est un autre document, que l'on peut aussi éditer en temps réel, auquel cas ça changerait les références. Et en fait, non seulement les documents sont partageables, mais les interfaces sont partageables, l'interface de manipulation. Ici, il a pris le code du bouton de citation, et il est en train de le coller dans l'éditeur de son co-auteur, qui ne l'avait pas, et maintenant le co-auteur peut utiliser cet outil de citation, donc il a configuré son interface de manière dynamique. Alors ça, c'est une partie qui n'est pas super intéressante. Dernier segment très rapide. Le papier est accepté. On va à la conférence, donc on va présenter l'article. Et ici, même chose, on utilise des outils d'édition. Et l'outil de citation, il va marcher aussi dans mon éditeur de transparent en mettant la citation dans le transparent et puis la référence tout à fait à la fin. Et lorsqu'on va à la conférence pour présenter l'article, eh bien, on va pouvoir montrer à l'écran les transparents, comme je le fais ici. L'orateur aura droit à ses notes, et le public pourra visualiser les transparents, mais aussi poser des questions dans un formulaire de saisie. Ces questions seront vues par le modérateur de la session, qui va pouvoir choisir dans son WebStraits à lui quelles questions sont les plus pertinentes. Il va les coller à droite, qui est en fait une vue sur le dernier slide de la présentation. Et donc l'orateur va arriver à la fin de la présentation avec les questions auxquelles il doit répondre déjà affichées à l'écran. Donc voilà, conclure, 2 minutes après midi. Pour plus de flexibilité, curieusement, il faut des concepts unificateurs. C'est grâce aux concepts unificateurs qu'on peut avoir des usages d'autant plus divers et variés et qu'on offre de la flexibilité aux utilisateurs. Dans le monde physique, ces principes unificateurs, c'est les lois de la physique. On ne les a pas choisis, elles sont là, la gravité est là, on fait avec. Dans le monde numérique, on a les lois de l'information. Elles ne sont pas aussi prédéfinies que ça, c'est à nous de les inventer et de créer des véritables environnements interactifs qui permettront aux utilisateurs, aux humains que nous sommes, d'exploiter les capacités toujours croissantes de l'informatique. Merci.